Depuis le temps qu'on parlait, qu'on faisait allusion de l'importance pour l'Impact de Montréal de nommer un directeur sportif, eh bien voilà que à peine la saison n'est même pas terminée. On vit un petit peu comme si la saison était terminée parce que l'Impact est officiellement éliminé à la suite de sa nulle de dimanche, jumelée à la victoire d'un concurrent. Mais on connaît enfin l'identité de ce directeur sportif. Il vient de débarquer à Montréal. Une immersion plutôt intense, j'imagine, pour lui, avec une tournée des médias. Olivier Renard est avec nous en studio. Olivier Renard, bonsoir, félicitations et bienvenue à Montréal et au Québec.
Bonsoir et merci aussi pour l'invitation.
Intense comme journée, comme entrée en scène finalement comme directeur sportif de l'Impact de Montréal?
Bon, toutes les journées sont intenses quand nous sommes dans le football. Au niveau du recrutement, on voyage beaucoup, mais c'est vrai que cette journée-ci était surtout, on va dire, médiatisée.
Oui. Un ancien gardien de but. Qu'est-ce qu'ils ont, les gardiens de but, pour se retrouver aussi souvent dans des rôles de direction? On connaît ça au hockey. Beaucoup de gardiens de but ont fait une carrière après leur carrière de joueur. Dans le soccer, ça semble, dans le foot, ça semble assez fréquent également. Est-ce que c'est le regard privilégié sur la situation qui permet de développer ces facultés-là?
Ben effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'anciens gardiens de but qui deviennent de bons entraîneurs ou au niveau du recrutement, d'avoir l'œil. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est peut-être le fait d'avoir vu sur tout le terrain. Donc, un jeu qui se joue devant nous et on voit toutes les lignes de course, on voit certaines particularités de joueurs. Donc, effectivement, peut-être que ce sont des situations qui font qu'on a peut-être plus facile après à retrouver, de continuer dans le sport préféré donc, que nous avons commencé tous quand on est jeunes.
Olivier, tu me permets de tutoyer?
Bien sûr.
Je prends le droit un peu, là. Olivier, à quel moment as-tu entendu parler de l'Impact de Montréal pour la première fois dans ta vie de footballeur?
La toute première fois, je veux dire, bon, je connaissais un peu les équipes ici et même le système, je veux dire, de MLS et du Canada. Maintenant, c'est vrai que c'est surtout depuis le transfert de Laurent Simon, qui a été un Belge
comme toi.
Et collègue en équipe nationale avec moi aussi. Donc, c'est vrai que le fait que Laurent soit venu jouer ici, ça a fait un petit peu beaucoup de bruit en Belgique, oui.
Est-ce qu'il y a de l'intérêt en Belgique, en France, en Europe, pour regarder des matchs de la MLS? Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder des matchs ou c'est un calibre qui, finalement, ne suscitait pas beaucoup de passion de l'autre côté de l'Atlantique?
Ben, c'est aussi pourquoi je suis venu, que j'ai accepté le défi de venir. Donc, il y a l'ambition qui est grande de ma part de vouloir faire des bonnes choses. Et pour faire un petit peu court dans le niveau du football de MLS, pour moi, ça ne fait que grandir. La preuve, c'est que moi-même, maintenant dans ma sixième saison de directeur sportif, je pense que les deux, trois premières saisons, je ne regardais pas forcément de match parce qu'il n'y a pas que moi, même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, parce que le niveau était peut-être inférieur et on se rendait compte que ça ne servait à rien de perdre du temps de regarder un niveau moindre, parce qu'on se posait la question, est-ce que ça, c'est des joueurs qui vont venir faire la différence en Europe? Donc, il y avait seulement ce sens unique de joueurs, de clubs de MLS qui regardaient des joueurs français, belges ou autres, pour les attirer en MLS. Donc, c'était vraiment un voyage dans un sens seulement. Maintenant, moi-même, ça fait 2-3 saisons que je regarde assidûment, moi et mon équipe de scouting dans mes clubs précédents, les matchs de MLS, donc ça veut dire que le niveau a augmenté parce que tous les clubs européens commencent à recruter aussi bien des Canadiens qu'Américains. Et notamment en Belgique, il y a deux Canadiens qui jouent et qui font des très bonnes préférences. C'est Larine dans le club de Zulte Waregem et Jonathan Davids qui est à Gand, qui est pour le moment une révélation du football belge.
Intéressant donc ces observations-là, mais qu'est-ce qui fait que quand on a une bonne situation, une bonne réputation dans le soccer européen, qu'on se laisse tenter par l'aventure nord-américaine et venir en MLS, Olivier Renard?
Bon, c'est un petit peu de tout, donc c'est vrai que j'ai eu la chance de passer dans des clubs un petit peu mythiques en Belgique, aussi bien le FC Malines qui est le dernier club belge à avoir gagné une Coupe d'Europe face à l'Ajax d'Amsterdam, ça remonte un petit peu mais c'est quand même le dernier club belge. Et le Standard de Liège, qui est considéré vraiment comme un club phare en Belgique, avec 28 000 supporters à tous les matchs, une ambiance extraordinaire. J'ai fait 3 bonnes saisons, j'ai réussi à... Enfin, quand je dis « je », n'aime pas tellement dire « je », parce que dans le football, t'es jamais seul à faire les résultats tout seul, c'est pas possible. Mais bon, c'est la vérité. Et 2 Coupes de Belgique, une fois vice-champion et une fois troisième, donc mon bilan sportif était plus qu'honorable. Maintenant, voilà, le défi proposé est pour moi grandiose et Et je veux me tester aussi à continuer à grandir dans mes idées footballistiques. Et ici, c'est avec la complexité des règles MLS, mais je suis quelqu'un qui a toujours essayé de découvrir les choses. Et ici, je peux faire de ma passion aussi des découvertes.
J'aimerais ça avoir le fond de ta pensée, si tu peux élaborer sur ce que tu as dit lors du point de presse aujourd'hui en parlant de la MLS, que c'est un championnat étrange et particulier.
Ben, étrange et particulier parce que si je dois comparer par rapport à la Belgique ou même les championnats entre guillemets européens, les plus grands déplacements en Belgique, c'est 2 heures de car ou de bus. Dans les autres championnats, c'est peut-être 2 heures d'avion maximum. Ici, c'est vraiment des décalages horaires, de météo complètement différente, énormément de contacts, de nationalités différentes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de styles de jeu différents aussi. Donc, c'est beaucoup de découvertes qui m'ont vraiment poussé à accepter le défi.
Qui vous a séduit au juste? C'est Kevin Gilmour lui-même, accompagné de M. Saputo. Comment s'y est-on pris du côté de l'Impact pour te convaincre de venir diriger le département sportif de l'équipe?
Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme cela. Donc, j'ai un rapport très, très privilégié avec Walter Sabatini qui travaille pour le club de Bologne. Donc, c'est aussi le club voisin, je vais dire, de l'Impact. Donc Walter, je connais depuis 5 ans, et durant l'été j'avais rendez-vous avec lui, avec d'autres des agents et des directeurs sportifs de clubs italiens. Donc chaque fois que je passe en Italie, puisque j'ai joué aussi 6 ans en Italie, j'ai toujours des contacts là-bas, j'apprécie aller boire un petit café avec Monsieur Sabatini, et il venait d'accepter ce défi aussi de travailler pour la famille Saputo. Donc et il m'a proposé, enfin il m'a pas proposé directement, il m'a simplement demandé est-ce que je pouvais peut-être éventuellement réfléchir à accepter ce défi. Mais vu que je venais de m'engager dans mon club d'Anvers quelques semaines auparavant, c'était pas directement pour moi. Non pas que le projet ne m'accepte, je n'acceptais pas le projet, c'était plus le fait de quitter un club où je venais d'arriver. Et ce n'est pas normalement dans ma nature de faire ça là. Et après, ça quelques semaines plus tard, 3 ou 4 semaines, j'ai été contacté de nouveau par M. Sabatini, qui m'a dit que M. Saputo et Kevin Gilmour passaient par Bologne. Donc je devais de nouveau me déplacer en Italie pour d'autres choses aussi. Donc j'en ai profité pour rencontrer le président et le propriétaire. Et on a parlé de tout, de la vie, de ce que j'ai fait dans ma carrière de joueur de football, de mon mode de fonctionnement au niveau du recrutement. Et ce n'était pas une interrogation ou je veux dire une interview pour un job. C'était vraiment... élargir mes contacts mondiaux pour moi-même dans le football. Et puis, je pense que le propriétaire et le président Kevin Gilmour ont réfléchi un petit peu sur ma situation et ont pensé que j'étais un petit peu l'homme peut-être à essayer de voir si c'était possible de m'attirer ici.
Avant d'accepter un tel défi, quand la proposition se concrétise, quand elle se présente, est-ce qu'on a envie de faire nos devoirs sur ce qui nous attend là-bas, contacter des gens qui ont peut-être joué là? As-tu été tenté de parler à Laurent Simon, par exemple, qui lui n'a pas eu la sortie désirée ici de Montréal, je pense, tel que ça ne s'est pas passé exactement tel qu'il le souhaitait? As-tu eu l'occasion de t'entraîner avec Rémi Garde, par exemple? Est-ce que tu as fait des démarches pour savoir dans quoi tu t'embarquais?
Oui, j'ai fait des démarches. Bon, il faut savoir que j'ai un cousin lointain qui habite ici dans la région du Québec aussi. Donc, mes parents sont venus plusieurs fois lui rendre visite, mon frère aussi. J'étais le dernier à ne pas encore l'avoir fait. Donc maintenant, voilà. Maintenant, je vais le faire, c'est même plus visite. Je vais m'installer. Donc...
c'est tout un, tout l'autre.
Donc, voilà, donc il va être servi. Et non, voilà, donc c'était... J'ai aussi évidemment contacté un peu avec Laurent aussi pour voir un peu, mais je savais déjà en fait que Laurent se sentait très bien ici, et le fait que sa femme est toujours ici à Montréal, ça veut dire beaucoup sur la ville et sur le style de ville.
Rémi Garde, non?
Non, je n'ai pas contacté.
Pas de contact avec Rémi Garde. On va faire une courte pause. Olivier Renard, le directeur sportif, nouveau directeur sportif de l'Impact de Montréal, entre en scène. On fait sa connaissance aujourd'hui. Et là, on va bien sûr poursuivre l'entretien, puis on va parler davantage de ce qui attend l'équipe et des défis qui attendent le directeur sportif, parce que ça va commencer sur les chapeaux de roue dès février avec le tournoi, la première phase ou la phase suivante du tournoi de la CONCACAF en Ligue des champions. De retour dans un instant aux amateurs de sport. Nous voilà de retour avec notre invité ce soir, Olivier Renard, le nouveau directeur sportif de l'Impact de Montréal. Pour parler de sport comme tel et du soccer qui nous attend en 2020, là, c'est intéressant et même ça doit être très stimulant pour les joueurs, pour toi qui entres en scène comme nouveau directeur, d'amorcer 2020 avec un tournoi et la phase suivante de la Ligue des champions, avec plusieurs décisions à prendre d'ici là, Olivier Renard. Comment entrevois-tu le calendrier d'ici là pour avoir une équipe compétitive sur les deux fronts, CONCACAF, Ligue des champions et MLS?
Mais c'est vrai que tout à l'heure, quand il m'a posé la question de pourquoi je disais que c'était un championnat un petit peu étrange et bizarre, ceci, la réponse que je vais donner maintenant, ça fait un peu partie de cela. Un stop de deux mois et demi, ça n'existe pas en Europe par rapport aux joueurs. Et tu vas recommencer ta saison avec un match plus qu'important de Ligue des Champions que tous les joueurs jouent au football pour atteindre des moments comme celui-là. Donc c'est vrai qu'au niveau de la motivation, mais il faut être prêt physiquement. Les autres championnats sont peut-être en plein boom à ce moment-là, donc le rythme, le manque de rythme, partir en stage, parce qu'ici au niveau de la météo c'est compliqué, il va falloir partir en stage quelques semaines, donc c'est au niveau mental pour les joueurs c'est pas évident non plus. Et au niveau du recrutement, voilà, il y a deux mois et demi pour essayer de trouver pour augmenter le niveau de l'équipe. Maintenant c'est vrai qu'avec les dates, le joueur arrivera quelques semaines seulement avant le match, donc tout ça ce sont des inconvénients, mais il faut, c'est ça qui fait que le challenge est beau aussi.
Je te vois en répondant aux questions, puis je te sens déjà imaginer des solutions potentielles, des contacts potentiels avec des joueurs. As-tu déjà des joueurs en tête ou ça sera davantage de conserver ce qui est ici en place ou il y a un impératif d'ajouter du talent d'ici février?
Non, des joueurs en tête à partir du moment où quelqu'un est directeur sportif d'un club de football depuis 6 ans, il y a énormément de joueurs qui ont été scoutés et des profils différents. Donc, et puis, il faut voir aussi le niveau de la mentalité. Qu'est-ce qu'un joueur peut s'habituer dans ce style de jeu ici en MLS ou pas? Donc, tous les championnats sont différents. C'est pas parce que quelqu'un qui est très fort techniquement, mais qui est peut-être un petit peu léger, en Belgique, par exemple, il a des difficultés. La MLS a d'autres qualités, d'autres défauts. Mais surtout, il faut d'abord bien analyser le noyau actuel. Parce que si parfois tu as une idée d'un très bon joueur, mais que tu as déjà un joueur qui est bon à cette position-là, ben tu ne vas pas aller prendre un joueur et barrer peut-être un jeune de l'académie qui est prêt à exploser ici. Donc tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte.
En analysant les salaires des joueurs ici avec mon collègue Jérémy Filosa, qui attirait mon attention là-dessus, est-ce qu'on paye plus cher pour le talent qui vient d'Europe compte tenu qu'on a dit de la MLS que c'était un calibre inférieur? Est-ce qu'il y a une surprime pour les joueurs qu'on attire d'outre-mer? Puis, quand on les voit sur le terrain se mesurer à ce qui existe déjà en MLS, dans certains cas, on a été franchement épatés, mais dans d'autres cas, on reste sur notre appétit. Est-ce qu'il y a lieu de réévaluer cette stratégie de payer à gros prix des joueurs qui finalement contribuent de façon plutôt modeste?
Ça veut peut-être dire que les transferts ont été ratés. Alors, si on n'est pas content des joueurs, mais non, ça c'est
pas... Il faut choisir les bons.
Bon, ça c'est pas à moi à critiquer les transferts qui ont été effectués avant. C'est à moi et à mon équipe et au club d'essayer de trouver des joueurs... qui a été un petit peu ma marque de fabrique aussi au Standard et à Malines, des joueurs peu connus, parce que ça, je suis persuadé qu'il y a énormément de bons joueurs dans des ligues inférieures et qui peuvent atteindre des niveaux supérieurs. Et ça, c'est le but. Moi, je préfère vraiment prendre des joueurs inconnus qui après deviennent connus que des joueurs connus qui, tout d'un coup, après 3 matchs, n'ont plus le niveau et tu as des problèmes avec eux.
Le joueur le plus connu de l'Impact de Montréal et le mieux rémunéré est Nacho Piatti. Je ne sais pas dans quelle mesure, Olivier Renard, tu as pu évaluer son jeu. Il a été absent plus souvent qu'autrement au cours de la dernière année. Le président Kevin Gilmour nous disait en entrevue la semaine dernière ouvertement qu'avant d'exercer l'option l'année prochaine, qu'il y avait lieu de réfléchir à l'avenir de Nacho Piatti. As-tu eu le temps de te pencher là-dessus? Sûrement que c'est un cas, puisque c'est un joueur tellement important. J'imagine que, et les millions qui viennent avec, ça doit être un cas dont vous avez déjà discuté, même si tu entres à peine en scène. Là.
Bah, tout le monde se rend compte que la qualité du joueur n'est pas à discuter. Donc ça, c'est sûr et certain. Maintenant, moi, il y a 3 jours que je suis arrivé ici. Mon but est de ne pas de divulguer l'idée par rapport à X ou Y. C'est vraiment d'abord de rencontrer les joueurs, de parler avec eux, de parler avec le staff, de comprendre Qu'est-ce que le joueur aimerait faire aussi? Parce que c'est toujours important de savoir comment le joueur se sent dans le club. Expliquer peut-être où le club veut aller aussi, pour convaincre des joueurs à comprendre que le club veut au fait grandir. Maintenant, par rapport à Nacho, voilà, tout le monde est conscient de ses qualités. Tout le monde est conscient aussi qu'il a eu une année compliquée au niveau des blessures. Mais on verra tous ensemble où on pourra finir. Mais moi, maintenant, c'est pas le bon moment de parler de la situation concrète.
Philosophiquement, là, au-delà du cas de Nacho Piatti, serais-tu surtout d'une philosophie à privilégier un joueur vedette à 5-6 millions ou privilégier trois bons joueurs à 2 millions?
Moi, je privilégie le résultat. Donc, dans le football, évidemment que tu as des joueurs qui... Il faut un mix de joueurs sur le terrain. Tu dois avoir des joueurs qui doivent mettre le bleu de travail et tu as des joueurs qui font la différence. Et généralement, les joueurs qui courent un peu plus que les autres parce que c'est leur qualité première peut-être de voir voler des ballons, de récupérer des ballons. Ils acceptent peut-être parfois d'avoir un joueur un peu plus talentueux qui fait un peu moins de sacrifices défensifs, mais par contre qui va faire la différence pour marquer le but parce qu'à la fin du match, c'est tout le groupe qui gagne. Donc tout ça, c'est aussi des critères au niveau du recrutement qui, pour moi, avoir un joueur surpayé ou plusieurs bons joueurs, c'est le dilemme, c'est le résultat. Donc, on peut parler toujours de bon terme. Je l'ai expliqué durant la conférence de presse. De long terme, c'est les résultats. Il n'y a rien d'autre à faire. Et que ce soit avec plusieurs joueurs de talent ou pas, c'est une équipe. C'est pas un joueur qui fait une équipe, c'est tous ceux qui sont sur le terrain.
Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Rémi Garde a été remercié pendant l'année, remplacé par Wilmer Cabrera. Donc, Kevin Gilmour a dit que le championnat canadien avait servi d'audition pour lui pour peut-être avoir la job et continuer comme entraîneur-chef la saison prochaine. Est-ce que, compte tenu de ce qu'il vient de vivre, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de victoires en MLS, est-ce que Wilmer Cabrera part avec une longueur d'avance ou c'est un des candidats au poste?
Il va partir certainement avec une longueur d'avance dans le fait que c'est la première personne avec qui je vais parler. Donc, il est devant les autres éventuels candidats. Mais moi, ce n'est même pas une question d'éventuels candidats. C'est d'abord parler avec l'entraîneur qui est en place actuellement, qui est sous contrat avec le club, qui a ramené un trophée au club aussi il y a quelques jours. Donc, ne fût-ce que pour le respect, c'est la première chose que je dois faire, c'est de parler avec lui et le staff.
Absolument. Donc, débarquer à Montréal, c'est quoi le sentiment maintenant là, que tu sens là, que tu es vraiment entré dans tes fonctions? C'est quoi le feeling alors que tu cherches probablement déjà une adresse, à moins que tu t'établisses chez la parenté là, pour tes deux enfants et ton épouse?
Oui, ça va être aussi un moment important pour moi de trouver assez vite où déposer les valises et de trouver aussi... l'endroit idéal pour mes enfants d'aller à l'école, parce que ça, évidemment, pour eux, ça va être une expérience nouvelle et enrichissante. Pas seulement pour eux, pour moi et pour ma femme aussi. Mais voilà, donc maintenant, mon job a commencé. Donc je suis déjà depuis quelques jours occupé avec toutes les situations contractuelles de tous les joueurs, de prendre le maximum d'informations pour pouvoir les rencontrer dans les prochains jours et de savoir de quoi je parle exactement par rapport à des options de joueurs ou pas.
Ben, Olivier Renard, merci beaucoup de t'être déplacé dans nos studios pour ce premier contact avec nous au 98.5 et aux amateurs de sport. Une belle rencontre et je te souhaite évidemment la meilleure des chances parce que si ça va bien pour toi, ça va aller bien pour notre équipe.
Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation.
Merci Olivier, au revoir. Olivier Renard, nouveau directeur sportif de l'Impact de Montréal. Et voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition des amateurs ce soir. J'espère que ça vous a plu. Dans quelques instants, Ron accueille Claude Julien, l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal à Bonsoir les sportifs. Je vous donne rendez-vous demain, 18h30. Ciao.